Les parts actualités.
Bonjour, ici Hélène Denis. Bienvenue à l'émission Les parts actualités, édition du 7 décembre 2017. En manchette, 22,3 millions investis pour aider les Canadiens handicapés à participer pleinement à l'économie numérique. Aussi, à moitié aveugle après une chirurgie aux dents. Un partisan du Collège français de Longueuil déplore les installations mal adaptées aux handicapés. Ne donnez plus au Téléthon. L'étonnante vidéo d'une personne atteinte de dystrophie musculaire. En entrevue, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec François Martin, guide bénévole du Musée des beaux-arts de Montréal, et avec Alice Charras, directrice générale du réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'île de Montréal, le RACOR. Grâce à un nouveau programme de 22,3 millions de dollars, les Canadiens handicapés seront plus nombreux à avoir accès aux outils numériques dont ils ont besoin pour participer pleinement à la société et obtenir les emplois bien rémunérés d'aujourd'hui et de demain. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a lancé hier le programme de développement de la technologie accessible qui co-financera au cours des 5 prochaines années des projets novateurs de mise au point de nouveaux appareils et technologies d'assistance et adaptifs numériques. Adaptatifs, dis-je bien. Dans le contexte de l'économie numérique, Internet est un portail clé pour bâtir et entretenir des réseaux professionnels, sociaux, économiques et culturels. Toutefois, de nombreux Canadiens ne parviennent toujours pas à profiter de ces avantages, non pas par choix, mais parce qu'ils se heurtent à des obstacles majeurs à l'accès aux technologies et à Internet. À l'heure actuelle, le soutien accordé à la mise au point et à la distribution de technologies accessibles est insuffisant en regard des besoins des Canadiens handicapés. Le programme de développement de la technologie accessible aidera à surmonter ces obstacles, à réduire les coûts de mise au point des technologies d'assistance et adaptatives et à accroître l'employabilité des personnes handicapées. Ces personnes seront ainsi plus autonomes et pourront obtenir les emplois bien rémunérés de la classe moyenne auxquels elles aspirent. Les entreprises du secteur privé, les organismes à but non lucratif et les instituts de recherche peuvent soumettre une demande dans le cadre de ce programme. Nouvelle tirée du Devoir, apprendre à conjuguer la déficience à l'âge adulte. Les adultes souffrant de déficience intellectuelle trouvent leur place dans la société dans une école montréalaise. À l'école ici, les jeunes ne viennent pas tant apprendre les maths qu'à vivre en société. Ils viennent apprendre la vie, résume Kim Bernier, éducatrice spécialisée dans l'une des rares écoles du Québec qui offre des services éducatifs aux adultes de plus de 21 ans. Présentant une déficience intellectuelle légère ou moyenne. Il est 9 heures du matin. Dans un beau tumulte, les rires et les confidences, une centaine de jeunes adultes envahissent les couloirs étroits de l'édifice Filion, une annexe du Centre d'éducation des adultes Outremont de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. La porte se referme sur la classe de Jacques Pilon. Le professeur accueille ses élèves en présentant la météo et la photo du jour. Sur le tableau blanc, un coucher de soleil sur Los Angeles provoque l'émerveillement des étudiants. Monsieur Jacques invite ses étudiants à prendre leur carte du monde pour la leçon de géographie. Les discussions vont bon train, chacun y va de sa petite expérience liée à la photo du jour. C'est comme ça tous les matins. Dans cette classe, notre dénominateur commun, c'est la socialisation, explique l'enseignant. Le défi pour tous nos élèves, quel que soit leur niveau, ça demeure de partager l'espace, la manière d'aller chercher l'attention et le respect des autres. Toutes ces choses varient d'un individu à l'autre, parce qu'ils n'ont pas tous le même vécu. La plupart des élèves arrivent à l'édifice Filion au début de la vingtaine après leur passage dans une école spécialisée. Ils ont le droit de rester dans les écoles secondaires jusqu'à 21 ans. Après, certains tombent sur des listes d'attente pour avoir une place en centre de réadaptation. On devient alors une option pour ceux qui souhaitent continuer leurs études et suivre le programme d'intégration sociale, explique la directrice dans son bureau décoré d'art naïf signé de ses élèves. Je parlais d'un tableau d'art naïf et puis maintenant, je m'entretiens avec François Martin, qui est guide bénévole du Musée des beaux-arts de Montréal pour les voyants et les non-voyants. Bonjour, Monsieur Martin.
Oui, bonjour.
Alors, vous proposez au Musée des beaux-arts l'exposition temporaire « Il était une fois le Western ». Il était une fois, point de suspension, le Western.
Exact.
Et c'est jusqu'au 4 février 2018. Qu'est-ce que cette exposition?
Bien, écoutez, cette exposition, lorsqu'on pense au Western, bien entendu, on pense bien entendu aux films Western qui ont été très nombreux. On pense, par exemple, au film de John Ford qui mettait en vedette le fameux John Wayne. Mm-hmm. Mais on pense aussi à Sergio Leone, une fois dans l'Ouest, là. Et puis, c'est ça, c'est que l'exposition, mais c'est plus que ça. C'est qu'on va présenter vraiment l'historique. On présente l'historique du film Western du début à aujourd'hui. Et puis, le premier film Western date de 1903. Et puis, c'est ça. Puis, dans chacune des salles, mais on présente des extraits de films. Tant à autre, c'est des films muets. D'autres, c'est des films qui datent, qui sont plus récents en couleur avec du son, la musique, etc. Et puis, c'est ce qui est présenté.
Et comment vous vous adaptez à un public non-voyant? Parce que vous nous parlez de cinéma ici.
Oui. Mais écoutez, les visites, d'abord, les visites sont plus longues. Habituellement, une visite devant notre public dure environ une heure. Avec le public non-voyant, ben c'est plus long. On passe plus de temps devant chacune des œuvres. Comme ça, ça dure là, de 1h30 à 2h, je vous dirais, là, pour une visite. Maintenant, ce qu'on fait, ben, vous savez, lorsqu'on est guide, on cherche toujours à créer un dialogue entre la personne qui regarde l'œuvre et l'œuvre elle-même. Mm-hmm. Mais on fait la même chose avec les non-voyants. Il faut, on se dit toujours, il faut trouver, comment dirais-je, les bons mots, les mots qui vont leur permettre de se créer une image.
Oui.
Vous avez reçu, je pense, dernièrement, Mme Trudeau, qui est non-voyante. Oui. Et puis, je pense qu'elle nous dit souvent, les mots dessinent. Mais c'est ça, on cherche les mots, les bons mots qui vont leur permettre de se créer cette image-là.
Et qu'est-ce qu'ils découvrent à vos côtés?
Ben, écoutez, ils découvrent bien des choses, là. C'est que nous, on va leur permettre là, de comprendre l'œuvre par notre description. Mais ce qu'ils vont comprendre, eux, ce qu'ils vont découvrir de nos côtés, je vous dirais, c'est le plaisir de découvrir une nouvelle expérience là. Dans le fond, c'est ultimement ce qu'on veut pour tous nos visiteurs, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils sortent de cette visite avec le sourire aux lèvres, là,
certainement.
Avec le goût de revenir pour les prochaines expositions à venir.
Oui, et concernant l'exposition dont on parle, il était une fois le Western, est-ce qu'il y a des objets, des artefacts que les visiteurs non-voyants peuvent toucher?
Bien, malheureusement, non, pas pour habituellement, parce qu'on a des expositions qui sont présentées aux non-voyants, on a des expositions qui sont temporaires, et puis on a des expositions aussi qui recouvrent notre collection permanente. Mm-hmm. Pour les expositions temporaires, là, habituellement, là, je ne vous dirais jamais, là, c'est pas arrivé qu'on ait des sculptures, par exemple, à toucher. Par contre, lors de la présentation de notre exposition qui sont permanentes, on a des sculptures qui ont été identifiées, dont on peut se permettre de toucher avec les non-voyants, mais avec une certaine précaution.
Oui, certainement.
Ils doivent porter des gants à ce moment-là. Mm. Et puis, ça rajoute, c'est bien intéressant parce que, vous pouvez comprendre, là, ça rajoute toute une nouvelle dimension là, à la présentation.
Bien, certainement, je comprends. Ça devient une expérience sensuelle.
Oui.
Et, Monsieur Martin, quand a lieu la prochaine visite pour personnes non-voyantes de l'exposition en cours? Comment on s'inscrit?
Bon, ben écoutez, la prochaine, c'est la semaine prochaine. Vous savez, on a des expositions, là, c'est tous le deuxième et troisième mardi du mois habituellement, je vous dirais, OK? Comme la semaine prochaine, le 12, ben je présente pour la deuxième fois là, l'exposition Western, et puis c'est à 10h30.
Ah oui.
Et puis le mardi suivant, pour ceux qui sont et celles qui seraient intéressés à participer, c'est mardi le 19, mais à ce moment-là, c'est notre collection là, permanente, et puis on fait le sentier de la paix là, dans le nouveau pavillon pour la paix là, du Musée des Beaux-Arts.
Oui, à découvrir absolument. Est-ce que vous êtes le seul guide qui travaille avec un public de visiteurs non-voyants?
Non, je ne suis pas le seul. Nous sommes une équipe, là, je vous dirais, d'une vingtaine de guides, là, puis qu'on se réunit assez régulièrement pour échanger puis nos façons, nos pratiques. Et puis, c'est toujours comme c'est toujours à découvrir.
Oui, toujours plein de choses à apprendre.
Il y a toujours quelque chose
à apprendre. Avec votre public aussi, hein?
Ben beaucoup, puis on apprend beaucoup d'eux, puis je vous dirais, c'est comme ça qu'on devient, par exemple, on se spécialise un petit peu dans cette matière-là à force de côtoyer les non-voyants, puis on répond à leurs questions, puis après un certain temps, moi je vous dirais, on vient à comprendre un peu, moi je vous dis que lorsque je présente une œuvre, un tableau, mais je sais où est-ce que je m'en vais maintenant, puis je sais le type, par exemple, de questions qui peuvent se poser, là, puis c'est bien important là, de bien décrire l'œuvre et puis de leur dire aussi où ils se situent là, oui. dans le musée et puis devant une œuvre, mais la dimension de l'œuvre et puis qu'est-ce qu'elle dit l'œuvre, là, c'est un personnage, mais le personnage, qu'est-ce qui fait le personnage, bien, il nous regarde, quelles sont les émotions, quelles sont les textures, s'il y a un paysage, par exemple, bien, écoutez, c'est quoi le paysage, là? C'est quoi est-ce qu'il y a une perspective derrière, est-ce qu'on voit autre chose, puis là on leur dit, écoutez, vous savez, derrière les montagnes, ça fait longtemps que je vous décris une œuvre, mais les montagnes, là, on est rendu à la moitié du tableau. Le reste du tableau, imaginez-vous, là, c'est le ciel. C'est uniquement le ciel avec des nuages. Puis avec un début de lune là, incroyable, et puis qui est situé là, à la droite du tableau. Comme ça, il faut, comprenez-vous, il faut donner le plus de descriptions possible.
Oui. Et là, vous nous donnez une émotions. Démonstration de votre grand talent. On ira à votre rencontre, François
ben oui,
Martin, guide bénévole du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Merci pour cette entrevue. Il était une fois le Western. L'exposition se déroule jusqu'au 4 février 2018 et puis c'est au Musée des Beaux-Arts de Montréal, 1380 rue Sherbrooke West. Pour les visiteurs non-voyants, il y a une visite la semaine prochaine à 10h30. Hein? Vous m'avez dit le mardi?
Merci beaucoup. Puis c'est ça. Il faut appeler pour réserver ça. Puis ils doivent être accompagnés également.
Oui, d'accord? Oui, certainement. D'accord. Puis on se reparlera pour les prochaines expositions parce que là, le temps nous manque.
Bien, merci beaucoup.
Au plaisir. Joyeuse fête.
Merci, vous aussi.
Dans lesoleil.com, Rémi Labonté voulait un plus beau sourire. Il est devenu aveugle d'un œil en plus d'avoir subi un arrêt cardiaque lors de la chirurgie dentaire. Il poursuit le spécialiste pour près de 400 000 $. Entrepreneur en construction de Saint-Narcisse en Beauce, Rémi Labonté, 49 ans, consulte en octobre 2014 le docteur Steve Bernier, chirurgien buccal et maxillo-facial à l'Hôtel Dieu de Lévis. Selon la poursuite déposée en cours supérieure, le spécialiste propose alors une correction dentaire chirurgicale en plusieurs étapes. Une première intervention est prévue le 25 novembre 2014. Le patient subira alors une ostéotomie du maxillaire supérieur, une opération qui repositionne le maxillaire supérieur, l'extraction de 4 dents ainsi qu'une greffe osseuse. Une seconde ostéotomie et la pose d'implants seraient faites ultérieurement. Rémi Labonté est opéré sous anesthésie générale le jour prévu. À son réveil, le patient constate une perte de vision complète de son œil droit. Selon les allégations de la requête, cette cécité serait permanente. Après la chirurgie, le docteur Steve Bernier aurait informé son patient que l'intervention pratiquée comportait un risque de cécité avec atteinte oculomotrice. Rémi Labonté allègue que c'est la première fois qu'il entendait son chirurgien parler d'un tel risque de complication. L'entrepreneur en construction a dû cesser de travailler pendant 1 an. Rémi Labonté affirme avoir aujourd'hui plus de difficultés à effectuer des tâches en hauteur ou nécessitant la manipulation d'outils dangereux. De même, il allègue éprouver du stress à conduire une automobile et avoir dû dire adieu à certains sports comme le golf. Le patient réclame 380 000 $ au chirurgien qui a, selon lui, failli à son obligation d'information. Dans le courrierdusud.ca, Gaétan Bernier adore encourager son équipe de hockey préférée, le Collège français de Longueuil, les vendredis soirs. Il déplore cependant les contraintes que présente le Colisée Jean Béliveau pour les gens qui, comme lui, doivent se mouvoir en fauteuil roulant. L'ex-chauffeur d'autobus, Nolizé, a perdu ses deux jambes il y a 8 ans, en plus de subir 5 pontages, ce qui le restreint à se déplacer parfois en fauteuil roulant. Premièrement, il n'y a pas assez d'espace de stationnement pour personnes handicapées ici, lance-t-il à la sortie de sa voiture adaptée, en compagnie de sa conjointe. Il n'y en a que 2. Vendredi dernier, il y avait minimum 5 voitures qui en auraient nécessité un. On a dû se stationner plus loin. Une fois entré dans la bâtisse par les portes du côté, la porte principale étant inaccessible au fauteuil roulant, seule une toilette d'infirmerie est disponible pour les personnes à mobilité réduite. Cette dernière, temporaire, n'est cependant pas adaptée. Le restaurant, dont l'accès est bloqué en raison de quelques marches, ajoute également au désarroi de Gaétan Bernier. Le Colisée Jean Béliveau ne possède par ailleurs aucune porte électrique. Le monde est tellement gentil ici, ce n'est pas vraiment un problème, rassure Gaétan Bernier. Mais c'est une loi depuis 2006 d'en avoir au moins une. Pour observer le match, une plateforme surélevée est disponible pour un nombre réduit de 2 ou 3 fauteuils dans un coin de la patinoire. Selon les dires de Gaétan Bernier et de sa conjointe, faute de place, ils doivent souvent s'installer sur les côtés, à la hauteur de la glace, ce qui les empêche de voir l'ensemble de la surface. Lorsque questionné sur le temps que prendront des travaux d'aménagement, la Ville a précisé qu'un projet sur 3 ans sera proposé dans le programme triennal d'immobilisation 2018-2020, qui devrait être adopté d'ici la fin de l'année. Et je m'entretiens maintenant avec Alice Charras, directrice générale du réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'île de Montréal. Bonjour, Madame Charras.
Bonjour, Madame Denis.
Alors, merci d'avoir accepté de nous parler de cette formation en premiers soins santé mentale PSSM que le Raccord offre maintenant et qui est créée par la Commission de la santé mentale du Canada. En quoi consistent les premiers soins en santé mentale?
Alors, cette formation, en fait, c'est exactement comme la formation en premiers soins physiques, en secourisme. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça permet vraiment de démystifier ce qu'est la maladie mentale. En fait, si une personne vit une détresse psychologique ou peut-être même commence une éventuelle crise, monsieur et madame tout le monde peut en fait répondre aux besoins de la personne, s'assurer qu'elle est en sécurité. Donc c'est vraiment intéressant, ça permet aussi de déstigmatiser la santé mentale et pouvoir venir en aide en fait à quelqu'un qui serait éventuellement, comme je disais, en détresse.
Oui.
Donc la personne apprend vraiment les premiers gestes puis apprend un petit peu qu'est-ce qu'on peut identifier comme...
Au lieu de paniquer puis partir en courant.
Oui, effectivement, oui. Ou même pouvoir même faire la distinction entre une intoxication, donc par l'alcool ou une substance, ou justement, effectivement, un problème de santé mentale. Donc, c'est vraiment intéressant.
Oui, alors ces cours s'adressent à tout le monde, si je comprends bien.
Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a décidé comme d'investir et donc de former une de nos employées qui maintenant donc peut la donner, qui est instructrice, parce qu'on voulait sensibiliser et pouvoir en fait toucher tout le monde, donc que ce soit des intervenants ou vraiment par exemple on représente des organismes aussi de proches, mm-hmm, de personnes souffrant avec un problème de santé mentale, donc même un proche pourrait avoir cette formation-là, puis ça pourrait lui être utile finalement pour venir en aide au mieux à la personne de son entourage qui vit avec un problème de santé mentale.
C'est la première fois que j'entends parler de cette formation. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été mis sur pied par d'autres organismes?
Alors en fait, donc c'est vraiment la Commission de la santé mentale du Canada qui l'offre. Il y a d'autres organismes qui l'offrent ou d'autres même des instructeurs, si on veut, qui l'offrent à travers le Québec. D'ailleurs, sur le site de la Commission de la santé mentale du Canada, on peut voir où se donnent les formations à travers le Québec. C'est même à travers le Canada que cette formation est offerte. C'est encore récent qu'elle est offerte de manière plus francophone. Nous, le raccord, on a décidé donc de l'offrir. Comme ça, on a vraiment une clientèle sur toute l'île de Montréal. Puis, on vise en particulier nos membres, nos organismes communautaires, mais aussi, c'est-à-dire plus le réseau de la santé ou n'importe qui pourrait être intéressé à l'offrir.
Et comment ça se passe si on est intéressé, Mme Charas, à suivre une formation? Est-ce que c'est sur plusieurs jours? C'est quoi le...
Oui. Alors, cette formation est offerte sur 2 journées complètes.
Oui.
Nous, par exemple, au raccord, on fait un prix pour nos organismes communautaires.
Combien?
On l'offre 100 $ pour les 2 jours. Et la personne, en fait, qui reçoit cette formation repart quand même avec beaucoup d'outils, beaucoup de documents et même comme un petit livret pense-bête pour qu'elle se rappelle en fait de qu'est-ce qu'elle a appris durant ces 2 journées-là. Et c'est aussi une formation qui est reconnue par la plupart des ordres et qui est certifiée. Donc la personne peut avoir des crédits en fait suite à cette formation, ce qui est vraiment intéressant. Puis pour les non-membres, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde qui ne ferait pas partie des organismes qu'on représente au raccord, c'est 200 $ pour les 2 journées. C'est quand même très raisonnable parce que la personne repart vraiment avec un bagage puis des acquis quand même solides pour la santé mentale.
Qui donne la formation?
Donc, au raccord, c'est une de nos employées, en fait, qui est donc instructrice. Et pour avoir l'accréditation comme instructrice, il faut vraiment avoir une formation donc offerte par la Commission de la santé mentale du Canada, qui est une formation de 5 jours assez intensive. Donc, ce qui est intéressant, pourquoi on a choisi aussi d'investir là-dedans, c'est que c'est quand même très encadré et très reconnu aussi.
Oui,
comme,
c'est du sérieux.
Oui, oui, c'est du sérieux, oui.
Et Madame Charas, le temps des fêtes, on sait que c'est une période très, très sensible. Ça s'en vient. On peut dire qu'on est dedans, là, parce que c'est quand même le 7 décembre. Où on peut demander de l'aide ou une écoute bienveillante si on en ressent
ça.
Le besoin?
Effectivement, on oublie, en fait, les périodes des fêtes peuvent vraiment être un moment, en tout cas, stressant et difficile pour beaucoup de personnes. Il est important de se rappeler que je vais donner le numéro, en fait, parce qu'à Montréal, il y a plusieurs lignes d'écoute, mais je vais donner le numéro essentiel, en fait, à savoir à travers le Québec, c'est la ligne d'écoute en prévention du suicide qui s'appelle 1-866-APPEL. Donc, le numéro, c'est 1-866-277-3553. Et c'est important donc d'avoir ce numéro en tête si jamais une personne aurait besoin de parler, parce que généralement, c'est cette ligne-là. Donc, il va y avoir une écoute attentive d'offerte, mais aussi éventuellement des références sur des services qui existent dans la région en fait où la personne appelle. Donc, je répète, 1-866-277-3553. Faut surtout pas hésiter à appeler parce que c'est ça peut arriver des fois que la période des fêtes peut être un élément stresseur pour certaines personnes.
Oui, alors merci. Puis pour trouver une formation près de chez soi, on peut faire le www.pssm.ca/fr.
Effectivement.
Madame Charas, Alice de son prénom, très beau prénom en passant, directrice générale du réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'île de Montréal. Un grand merci, puis je vous souhaite un joyeux Noël.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Au revoir. Le Téléthon en France, ça aide qui finalement? C'est sur francebleu.fr. Amine, Mourad, Sébastien ou encore Mounia, des centaines et des centaines de malades attendent le week-end Téléthon en Vaucluse. 92 740 769 euros, c'est le montant récolté en 2016. Alors, il faudrait trouver l'équivalent en argent canadien. 92 740 769 euros. Une somme qui permet de guérir et d'aider les malades en Vaucluse, dans le sud de la France. Le Téléthon, c'est un numéro, le 3637. En 2016, 250 programmes et jeunes chercheurs ont été financés grâce aux dons. De plus, 33 essais cliniques sont en cours. Des essais cliniques pour des maladies rares de la vision, des muscles, du sang, du foie, du cerveau, de la peau ou encore du cœur. L'autre aspect du Téléthon qui se tient en fin de semaine, c'est aussi l'aide aux malades. Un soutien de tous les jours pour les démarches administratives, l'aménagement de l'intérieur, les fauteuils roulants. Chez Matisse, à Valréas, par exemple, ce jeune homme de 27 ans a une myopathie de Duchenne. C'est une dystrophie musculaire, une maladie qui lui fait perdre ses forces petit à petit. Depuis plus de 10 ans, Matisse ne marche plus, il passe ses journées sur son fauteuil roulant. D'ailleurs, AFM Téléthon vient de lui offrir un nouveau fauteuil électrique, un don qui va faciliter la vie ainsi qu'à sa famille. Plus de 20 000 euros que cette famille ne pouvait pas investir. Le Téléthon a aussi aidé cette famille à adapter sa voiture à l'handicap de Matisse. Pour un don de 100 euros, par exemple, 8 euros vont dans les frais de gestion, 12 dans les frais de collecte, 50 pour la recherche, 24 pour aider les malades et 2 pour l'information scientifique. Les Jeux paralympiques de Pyeongchang s'amorcent dans 90 jours à peine. 6 sports seront au programme et les Canadiens espèrent une récolte de médailles encore meilleure que celle de 2014. À Sochi, le Canada avait terminé au 3e rang du classement général avec 16 médailles, dont 7 d'or. Plus d'une cinquantaine de sportifs canadiens se rendront en Corée du Sud. Bon nombre d'entre eux sont des espoirs de médailles. Le skieur Mac Marcoux n'avait que 16 ans lorsqu'il a remporté 3 médailles à ses premiers Jeux en 2014. Avec 4 autres années d'expérience, il a toutes les raisons de croire qu'il pourra faire encore mieux cette fois-ci. Le diffuseur public national demeurera le Réseau paralympique du Canada jusqu'en 2020. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Les Paractualités. Ici Hélène Denis. Merci à mon équipe, à la recherche Anne-Laure Janson et à la technique Mathieu Tessier. Merci aussi à mes invités François Martin ainsi que Alice Charras. Merci à vous, bien sûr, chers auditeurs, et on se retrouve la semaine prochaine puisque Les Paractualités, c'est une émission qui a lieu du lundi au jeudi ou sur le site Web. À bientôt.